Chapitre 16. Le lendemain arriva le télégramme attendu. Henley consentait à recevoir sa fille, mais sous condition. Sa réponse ainsi conçue, « Oui, mais à laisser », portait l'empreinte du caractère de ce personnage. Elle ne causa à mon joie ni mécontentement ni surprise. Les opérations habiles, au moyen desquelles ce brasseur d'affaires avait quintuplé sa fortune, ne laissaient pas de lui avoir fait beaucoup d'ennemis, d'où certains bruits fâcheux, toujours en circulation. Trop perspicace pour ne pas s'apercevoir que la plupart de ses anciens amis lui battaient froid, il en était cruellement blessé dans son amour-propre. Aussi, ses jugements sur les hommes et sur les événements se ressentaient-ils de l'âcreté de son humeur. Si un malheureux, pourvu de références exceptionnelles, faisait appel à sa charité, le banquier refusait net. Mais, au contraire, si un pauvre diable sans aucun répondant s'adressait à lui, il l'assistait généreusement. À ceux qui lui demandaient des explications sur cette singulière manière d'agir, il disait « Ma foi, quand on n'a pas soi-même une trop bonne réputation, on sympathise naturellement avec ceux qui en ont une mauvaise. » Le docteur Vimpany arriva à l'hôtel à l'heure fixée par Montjoie. Sa physionomie sombre reflétait les dispositions de son esprit. Il s'exprima en ces termes. « Encore un jour de travaux forcés comme celui-ci, monsieur Montjoie, et je succombe à la peine. Ah, il est grand temps que je trouve moyen de sortir de cet enfer. Londres ou le voisinage de Londres, voilà ce qui convient à un homme comme moi. Eh bien, et ce vin merveilleux, je suis un Saint-Jean bouche d'or. Si votre piquette française ne me va pas, je le dirai carrément. » Les verres à vin de Bordeaux étant inconnus à l'hôtel, on se servit sans façon de grands verres comme pour le vin ordinaire. Tout d'abord, M. Vimpany prouva qu'il était initié aux formalités d'usage pour la dégustation du vin. Il remplit son verre, le présenta à la lumière afin d'en considérer la couleur, puis il implique à son verre un petit mouvement de rotation, on hume le parfum à plusieurs reprises, et, avec autant de précaution que s'il se fût agi d'un toxique, il finit par y tremper ses lèvres. Puis, d'un trait, il vide le verre, et prenant en considération l'impatience de son hôte, il prononce le fameux verdict. « Vous estimez ce vin beaucoup trop haut. C'est un petit Bordeaux, passable, naturel et inoffensif, voilà tout. J'espère que vous ne l'avez pas payé trop cher. » Jusque-là, Hugues avait conscience d'être en train de perdre la partie engagée, mais les dernières paroles du docteur lui donnaient enfin l'espoir d'être en possession de la carte maîtresse. Le piètre dîner fut bientôt expédié. De potage, point. Le poisson, d'une fraîcheur plus que contestable. Le rhum steak, coriace comme du caoutchouc. Des pommes de terre bonnes, tout au plus pour la gent porcine. Un pudding à décourager la gourmandise d'un enfant. Du fromage, dit anglais, et qui, par parenthèse, vient d'Amérique et emporte le palais. Mais le vin seul eût suffi à faire passer tout le reste. M. Vimpany, en ingurgitant verre sur verre, persistait à dire que ce n'était, en somme, rien de merveilleux. En réalité, dans son fort intérieur, il ne pardonnait pas à Hugues de lui offrir aussi maigre pitance. « Le diable m'emporte !» s'écria-t-il. « La cuisine du bord vaut encore mieux que celle d'ici. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'étais naguère médecin à bord d'un paquebot. Voulez-vous que je vous raconte comment j'ai perdu ma position ?»« Je suis tout oreille, docteur. » »« Figurez-vous que le capitaine a fait des plaintes sur mon compte au directeur de la compagnie, tout simplement parce que je ne voulais pas m'astreindre à aller tous les matins frapper à la porte des cabines occupées par les passagères pour m'informer comment elles avaient passé la nuit. Ma foi, c'était bien plutôt à elles de me faire appeler si elles avaient besoin de mes conseils. Voilà de quelle façon j'ai été mise à pied. Veuillez me passer la bouteille. Puisque nous sommes sur le chapitre des femmes, dites-moi donc un peu ce que vous pensez de la mienne. Voyons, avouez-le, il vous a été donné rarement de rencontrer une personne d'une si parfaite distinction. Tenez, voyez-vous, mon ami, je me suis pris d'une véritable sympathie pour vous. Allons, une bonne poignée de main pour en finir. Mais auparavant, causons comme une paire d'amis, dites. Voyons, où vous imaginez-vous que ma femme ait pris ses grandes manières et ses grâces? Parbleu, mon bon, sur la scène et comme tragédienne, s'il vous plaît. Ah, si vous l'aviez vue en Lady Macbeth, elle vous aurait fait courir le frisson dans les moelles. Vous voyez en moi un homme qui, en épousant une actrice, a donné la preuve qu'il est au-dessus des préjugés de ses confrères. Seulement, notez bien ceci, c'est que nous passons ce détail sous silence, car à Honnay-Buzan, les gens sont si bêtes qu'à cause de cela, à coup sûr, ils me retireraient leur confiance. Mille tonnerres, la bouteille est vide. Deo gratias, en voilà une autre pleine. Bravo, mon cher, bravo. L'on ne saurait mieux traiter un invité, un ami. Allons, donnez-moi la main et jurez-moi sur l'honneur que vous ne trahirez pas mon secret, le secret de ma femme. Le secret de ma femme, monsieur. Tiens, tiens, il me semble que je vous ai vu sourire. Ah, dame, si l'homme à qui je viens d'ouvrir mon cœur est en train de se ficher de moi, je le souffletterai volontiers, même à sa propre table. Mais non, je me trompe. Je vous fais mes excuses, une poignée de main, et n'en parlons plus. À votre santé. Qu'est-ce que je disais donc ? Vous étiez en train, répondit Hugues sans perdre la tramontane, de me faire les honneurs de vos confidences. Le regard du docteur, déjà quelque peu troublé, annonçait un état d'ébriété très prononcé. Vous alliez me dire un secret. Monsieur Vimpany comprit enfin, et, avisant la porte, il dit à mi-voix : Les murs ont des oreilles, vous savez. Que voulais-je vous raconter ? Chut ! Non, je me trompe. Eh bien, ma foi, je n'y suis plus. Montjoie répliqua vivement. Il s'agissait de Madame Vimpany, je crois. Le docteur, à cet instant, se renversant dans son fauteuil, tire un mouchoir de sa poche et se met à pleurer. Ah, quel traître ! Murmura-t-il. M'inviter à dîner et profiter de ma situation pour insulter ma femme, la plus jolie, la plus douce, la plus innocente des femmes. Oh, Arabella dorée ! Sur ce, il jette son mouchoir à l'autre extrémité de la pièce, pousse des éclats de rire sonores et poursuit « Ah, Montjoie, quel triple sot vous êtes pour ne pas vous être aperçu de la comédie que je joue. Croyez-vous donc que je me soucie de ma femme ? C'était jadis une belle créature, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un paquet de loques. Pourtant, je le reconnais, elle a ses mérites. À propos, il est une chose que je désirerais savoir. » Au nombre de vos connaissances, comptez-vous un lord ? Montjoie, devenu plus prudent, répondit simplement « Oui ». Voilà une réponse bien laconique, monsieur, pour un homme comme moi. Si vous voulez que j'ajoute foi à vos paroles, veuillez bien me dire le nom de votre ami. Il s'appelle Lord Harry. Monsieur Vimpany, en entendant ce nom, frappa sur la table si fort que les verres en sautèrent. « Quelle coïncidence, dit-il, ou plutôt quel hasard ? D'ailleurs, providence et hasard, c'est tout un pour les esprits bien équilibrés. N'allez pas dire le contraire. Oui, je le répète, bien équilibré. Je parle sérieusement, Montjoie, mon cher Montjoie. Eh bien, le lord de ma femme, c'est Lord Harry. Halte-là, ne m'en versez pas davantage. Versez encore, versez toujours. » Je ne veux pas vous faire une impolitesse en refusant de vous tenir compagnie. Allons, passez-moi la bouteille, l'amour de bouteille. Tu Dieu, que vous avez là une belle bague. Vous l'estimez naturellement un grand prix. Eh bien, on ne peut pas plus la comparer à celle de ma femme qu'une lanterne au soleil. Par exemple, si jamais nous tombons dans la dèche, ce serait pour nous une ressource, une poire pour la soif. Qui sait ? Mais je crains d'avoir été trop libre avec vous, trop familier. Je gage que je vous aurai, pour un peu, appelé mon vieux. Excusez-moi, vous savez le dicton, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce diamant est un présent fait à ma femme. Or c'est faux, archi-faux, nous ne sommes redevables à personne de ce bijou de prix. Ma femme, mon admirable femme, reçoit un beau matin par la poste une petite boîte recommandée. Le même courrier lui apportait une lettre de Lord Harry. Pénétré de reconnaissance pour les services qu'elle avait pu lui rendre, vous saurez plus tard ce dont il s'agissait, il répugnait, disait-il, à lui offrir de l'argent, mais il a prié d'accepter une bague de famille comme témoignage de sa reconnaissance pour son dévouement. « Je ne suis fichtre pas jaloux. Libre à lui, morbleu. Si cela lui fait plaisir de faire la cour à Madame Vimpany, ridée, rafalée, vieille. » Tiens, tiens, tiens. Seriez-vous tenté aussi de flirter avec elle? Crénom, je me sens une forte envie de vous jeter cette bouteille à la tête. Non, par ma foi, ce serait un péché de perdre ainsi ce vin délicieux. Vrai, il est exquis. Que vous êtes aimable de m'en offrir à bouche que veux-tu? Diantre, qui donc êtes-vous? Je vous dirai que je n'aime pas rompre le pain avec un étranger. Dites-moi un peu, ne connaîtriez-vous pas quelques-uns de mes amis, un nommé Montjoie, par exemple, et même deux individus du même nom? L'un est mort, assassiné par de misérables bandits. Comment les appelez-vous? Soudain, la tête du docteur retombe sur sa poitrine, sa voix s'éteint, ses yeux se ferment, puis se rouvrent, et il poursuit. Aimeriez-vous faire la connaissance de Lord Harry? Je peux même vous tracer son portrait avant de vous le présenter. Entre nous, c'est un coquin fieffé. Pourriez-vous me dire pourquoi il tient à s'occuper de ma femme, de mon admirable femme? Convenez avec moi qu'il aurait mieux fait de s'occuper de la sienne. Nous l'avons recueillie sous notre toit, c'est une charmante personne. Mais je vous avoue que ce n'est pas mon type. Comme médecin, j'estime qu'elle manque de tempérament. Lord Harry n'a qu'à venir chez nous s'il désire la voir. Qu'est-ce donc qui le retient tant en Irlande? Le savez-vous? Moi, je l'ai oublié, j'oublie tout. Je commence à me croire menacé d'un ramollissement du cerveau. Or, le seul moyen de remédier à cette maladie, au dire des docteurs, c'est de remonter la machine avec de bons vins. Si ce Bordeaux ne vaut pas 25 francs comme un liard, je veux bien être pendu. Surtout, n'allez pas éventer la mèche. Avez-vous jamais entendu parler d'un fou aussi fou que... Voilà que son nom m'échappe. Qu'importe, ce lord, mon ami, s'éternise à chasser en Irlande. Le renard, me direz-vous? Vous me la baillez belle. C'est un gibier autrement relevé après lequel il court. Il chasse, dit-on, les assassins. Seulement, il sera tué par eux, vous verrez. Voulez-vous parier avec moi? Tenez 5-1. Qu'il sera mort et enterré avant la fin de la semaine. Au fait, quand donc commence la semaine? Mardi, mercredi, samedi, c'est le sabbat. C'est le sabbat, alors dimanche. Mais non, nous sommes juifs et non chrétiens. Je veux dire... Sur ce, sa langue s'embarrasse, son œil se ferme de nouveau, il se laisse aller comme un paquet mal ficelé et s'endort. À ce moment, Montjoie sent pertinemment que ses appréhensions sont bien au-dessous de la réalité. Il est clair que, lorsque le docteur n'est pas pris de boisson, il ment comme un arracheur de dents qu'il est. Par contre, dès qu'il est ivre, la vérité sort de sa bouche inconsciemment. En somme, l'explication qu'il avait donnée du séjour de Lord Harry en Irlande n'avait rien que de plausible. La nature exubérante du personnage étant donnée, il devait avoir à cœur de venger à tout prix la mort d'Arthur. Mais était-il nécessaire d'affliger Iris outre mesure en la mettant au fait de la vérité? Certes non. Ensuite, était-il besoin de lui révéler que Madame Vimpany n'était qu'une espionne et qui plus est, une espionne stipendiée? Dans l'état d'esprit d'Iris, elle se refuserait assurément à y ajouter créance. Tout en se laissant aller à ses réflexions, Hugues considérait le docteur dormir et ronfler. Toutefois, il ne regrettait ni le temps ni la patience qu'il avait dépensé pour mener son plan à bonne fin. Après ce qu'il venait d'entendre, et grâce aux qualités expansives du vin de Château Margaux, Montjoie résolut de faire partir Iris au plus vite de chez le docteur. Là-dessus, Hugues quitte l'auberge sans tambour ni trompette et se rend en toute hâte près d'Iris afin de la décider à retourner à Londres avec lui le soir même.